Géopolitique. Hassan Diop.
Bienvenue à tous. Géopolitique reçoit aujourd'hui trois invités au téléphone. Dorothée Schmidt, chercheuse à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, où vous êtes directrice du programme de recherche Turquie contemporaine. En ligne d'Istanbul, Samim Akgönül, politologue, spécialiste de la Turquie bien sûr, et chercheur à l'Université de Strasbourg. Et puis avec moi ici en studio, Marc Semo, rédacteur en chef, chef du service étranger à Libération et grand connaisseur de la Turquie. Et c'est pour débattre de la première élection présidentielle au suffrage universel de l'histoire de la Turquie. Le premier tour de scrutin a lieu ce dimanche 10 août et un éventuel second tour le 24 août. Jusque-là, le président turc était élu par les députés et l'essentiel du pouvoir exécutif reposait entre les mains du Premier ministre. Dans la première partie du débat, nous allons parler des enjeux politiques donc de ce scrutin et dans la seconde partie sera davantage axée sur les enjeux institutionnels de cette élection. Alors, ils sont trois candidats seulement sur la ligne de départ. Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre au pouvoir depuis plus de 11 ans pour défendre les couleurs de son parti, l'AKP, le Parti pour la Justice et le Développement. Ekmeleddin İhsanoğlu, le candidat unique des Kémalistes, du Parti Républicain, le CHP, et du Parti du Mouvement Nationaliste, le MHP, les deux principales forces de l'opposition turque. Enfin, Selahattin Demirtaş a été investi, lui, par le Parti démocratique du peuple, le HDP, d'influence kurde. Il est plutôt placé à gauche sur l'échiquier politique. Alors, tout d'abord, Marc Semo, pourquoi un casting aussi restreint, si peu de candidats dans cette première élection présidentielle turque, donc au suffrage universel, élection somme toute historique?
C'est une élection historique, mais de fait, dès le début, personne n'avait trop de doutes sur le fait que Recep Tayyip Erdogan gagnerait. La question est de savoir s'il gagnera dès le premier tour, ce qui semble...
Mais pourquoi seulement trois candidats?
Maintenant très probable, vu les sondages, il est donné à 57% par l'institut le plus sérieux. Donc voilà, face à lui, qui mettre? Alors, l'idée de l'opposition, des deux principales forces de l'opposition, d'un côté les kémalistes du Parti Républicain du Peuple, qui était le parti fondé par Atatürk, qui est l'héritier de ses valeurs d'une république jacobine, laïque, etc., disait il faut essayer d'avoir un candidat qui rassemble et surtout ne pas se diviser. Donc ils ont fait cette espèce d'alliance contre nature avec le MHP, le Parti du Mouvement National, qui est un mouvement de droite extrême, disons, et ils ont essayé de trouver un candidat commun. Alors ils ont choisi un homme charmant, un ancien diplomate qui a été d'ailleurs très pieux, conservateur, Ekmeleddin İhsanoğlu, qui a été secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique, avec l'idée comme ça, on va ratisser large, ce qui en soi pour le deuxième tour n'était pas une mauvaise idée. Le problème, c'est qu'il risque de ne pas avoir de deuxième tour, et en plus ce candidat a un peu déçu toute une partie de l'électorat du GAP, qui sont des kémalistes, qui croient aux valeurs de la laïcité, qui critiquent la dérive autoritaire d'Erdogan, mais aussi l'islamisation croissante de la société, et qui, pour le moins, ne sont pas très motivés à voter pour lui. Les nationalistes, pour d'autres raisons, ne le sont pas non plus vraiment. En plus, les uns et les autres se méfient de cette alliance. Donc, voilà, ça a été un peu un mauvais choix. Et ensuite, il reste Selahattin Demirtaş, qui vient du mouvement kurde, qui, lui, a le soutien, bon, d'abord d'une partie des Kurdes, mais aussi de toute une partie de la gauche, de la gauche moderne, un peu de ce qui avait été ce mouvement de Gezi, ce grand soulèvement du printemps dernier, où il y a eu en tout plus de 2 millions à Istanbul, mais pas seulement. Il y a eu 2 millions de manifestants en un mois dans toute la Turquie, dans toutes les préfectures, voilà, et qui lui est crédité de 8% des voix, ce qui n'est pas mal. Mais voilà, le poids d'Erdogan est tel que...
Il ne peut que, d'après les sondages en tout cas, que passer au premier tour. Alors, Samim Akgönül, juste un petit rappel tout de même sur le nombre restreint de candidats. Il semble que seuls les partis représentés au Parlement pouvaient présenter des candidats. Par exemple, en France, on compare un peu cette élection à une élection à la française. Or, en général, on a beaucoup plus de candidats au premier tour en France que dans cette élection turque.
Bien sûr, la raison est très très simple, parce que la loi électorale pour cette première élection à suffrage universel a été taillée sur mesure pour Erdogan et par Erdogan, pour ce qui est le minimum possible de candidats, dans la mesure où, pour être candidat, pour être présenté comme candidat, il faut au moins 20 signatures de 20 députés des partis ayant un groupe parlementaire à l'Assemblée. D'ailleurs, pour avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée, il faut 20 députés. qui fait qu'aujourd'hui, avec cette loi électorale, il ne pouvait y avoir au maximum que 4 candidats, parce qu'il y a 4 partis politiques avec un groupe parlementaire au Parlement, pas plus. Or, il y avait 2 autres possibilités pour multiplier les candidatures au premier tour. Il aurait pu y avoir un système à la française, c'est-à-dire que, je sais pas, 200, 300, 400 signatures des élus, de l'ensemble des élus, mais dans un pouvoir si centralisé comme en Turquie, ces élus, les conseils municipaux des maires n'ont aucun pouvoir, donc ça n'était pas possible. Et deuxième, c'était la proposition du troisième candidat, justement, de Selahattin Demirtas, la pétition, une pétition populaire pour présenter un candidat à la présidentielle. Je ne sais pas, moi, 300 000 signatures, 400 000 signatures auraient pu faire l'affaire. Donc ça n'a pas été le cas, justement pour restreindre le nombre de candidatures au premier tour et justement pour faire élire Erdogan au premier tour. Ce qui fait le résultat des courses, nous avons Erdogan, comme Marc l'a dit, nous avons un candidat, d'une coalition entre CHP et MHP et plein de petites parties, et plus le candidat de la plateforme kurde démocrate, socialiste de gauche, socialiste libéraux, etc. Donc nous n'en avons que 3, et aujourd'hui nous discutons si on va partir pour le deuxième tour ou pas, alors que s'il y avait une loi électorale normale, une démocratique, il aurait pu y avoir 15, 16, 20 candidats. Chaque candidat pourrait présenter ses points de vue et au deuxième tour, voilà, on aurait pu éliminer celui qu'on ne veut pas, choisir et éliminer au deuxième tour. Ça n'est pas le cas. Certainement, on va voir ce dimanche le taux de Recep Tayyip Erdogan ainsi que de ses 2 challengers.
Voilà. Alors, Dorothée Schmidt, cette alliance contre nature dont parlait Marc Semo entre les kémalistes d'un côté et les ultranationalistes de l'autre autour d'un candidat commun, est-ce que ce n'est pas finalement à l'avance un aveu d'échec face à cet inoxydable candidat de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, qui jouit d'une popularité inouïe?
En tout cas, ça montre qu'effectivement, l'opposition en Turquie a beaucoup de mal à se structurer. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, notamment si on compare avec une présidentielle à la française, comme a commencé à le faire Sami Makgönü, on a beaucoup de mal à comprendre à quel point ces partis d'opposition, qui sont pour certains quand même des partis importants, qui sont des partis qui ont de la bouteille politiquement, ont du mal à définir une stratégie. Il semble, vu de l'extérieur, que mettre quelqu'un comme İhsanoğlu, qui est un conservateur, ne correspond pas à la vocation théoriquement social-démocrate du CHP. Il semble qu'il a commis une gaffe pendant la campagne électorale où Erdogan s'est gaussé de lui parce qu'il avait confondu les paroles de l'hymne national avec un autre poème de l'auteur. On a donc plein de petites gaffes comme ça qui semblent absolument incroyables quand on voit la série de crises politiques que Erdogan a dû quand même affronter depuis un an, entre la crise de la contestation de Gezi, qui est quand même la première crise énorme qui a attiré l'attention, je dirais, de l'Occident sur cette polarisation du paysage politique turc, la très grosse crise autour des questions de corruption au mois de décembre dernier, avec la bagarre avec la confrérie de Fethullah Gülen, et puis la dernière crise quand même après l'accident de la mine de Soma, et une partie de l'extrême-gauche turque qui a été revivifiée par ça, et les syndicats qui sont descendus dans la rue, etc. Il semble vraiment extraordinaire de voir qu'aujourd'hui, le candidat qui finalement incarne la forme d'opposition qui devrait émerger de toutes ces contestations, c'est le candidat kurde. Alors ça, c'est quand même la chose très nouvelle et très intéressante de cette élection, c'est l'idée d'une dékurdisation éventuelle des candidats kurdes, quoi. C'est-à-dire l'idée qu'il fait une campagne sur des thèmes nationaux pour la première fois.
Alors, Marc Semo, vous dites, vous, que Demirtas est un homme politique peut-être un peu trop moderne pour une Turquie trop conservatrice.
Il y a ça. Il est un peu trop moderne à bien des égards, par son discours, parle de démocratie participative, et il est très dans le mood général des nouvelles formes de contestation politique qu'il y a en Europe, c'est sa force. Il ne faut pas non plus oublier son passé, c'est quand même un militant kurde qui vient du mouvement nationaliste kurde lié au PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, qui est le mouvement de la guérilla kurde. Donc il y a quand même toute une partie de l'opinion qui reste un peu réticente par rapport à ce passé. Mais effectivement, il cristallise quelque chose. On verra jusqu'à quel point. Bon, pour le moment, il est crédité de 8% dans les sondages, ce qui est pas mal. En même temps, globalement, le parti kurde donc a changé souvent d'étiquette en fonction à la fois des interdictions et de vagues regroupements politiques au cours de son histoire, a plus ou moins toujours fait autour de 7-8%. S'il arrive à 10%, on pourra dire réellement qu'il y a l'amorce de quelque chose de nouveau.
De nouveau. Alors, Samim Agnoul, pour revenir à Recep Tayyip Erdogan, comment expliquer cette popularité, encore une fois, inoxydable formidable. Ça fait près de 12 ans de pouvoir, avec des dérives que l'on connaît, que vous avez évoquées les uns et les autres, ces manifestations réprimées à travers toute la Turquie, cette affaire de corruption où sa propre famille a été mise en cause, il a fallu débarquer des ministres. Bref, il a fallu aussi mettre au pas la justice, la police, mais donc il est en passe de remporter ces élections.
Je crois qu'il y a deux raisons, une conjoncturelle et l'autre structurelle. Conjoncturelle, il faut dire, c'est un leader charismatique, c'est une bête politique, c'est une bête de scène. Il n'est heureux que sur des scènes, des meetings géants, en hurlant, en montrant du doigt à tous ses adversaires. Donc il aime ça et ce ton-là plaît au public. Donc ça, c'est une première raison. Mais il y a une raison plus structurelle. Il faut quand même dire, c'est un mouvement de pendule. Pendant des décennies et des décennies, c'était l'octorat qui, par vents et marées, reste derrière Erdogan, et s'est vu humilié, s'est vu plus ou moins oppressé, s'est vu jeté au second plan par l'élite urbaine kémaliste très occidentalisée, qui les considérait comme une masse informe. Aujourd'hui, cette masse informe, qui d'ailleurs est toujours vue comme une plèbe par les intellectuels, par l'élite istanbuliote et smyrniote, cette plèbe, enfin, depuis une dizaine d'années, a le droit d'être aux commandes de l'État. Et donc cette commande de l'État n'est pas seulement une commande, comment dirais-je, politique. Là, il y a une revanche politique, certes, mais aussi il y a une revanche économique, il y a une revanche sociale, il y a même une revanche culturelle. Et c'est tout ce groupe-là, cet ancien plèbe, si j'ose dire, qui était vu comme une population rurale par les kémalistes, par les élitistes, a créé sa propre bourgeoisie, et cette propre bourgeoisie n'a aucune envie de lâcher les rênes du pouvoir.
Voilà, sur RFI se poursuit Géopolitique avec nos trois invités, Dorothée Schmidt, Samim Akgönül, et puis Marc Semon, un débat, donc la première élection présidentielle turque au suffrage universel. Dorothée Schmidt, donc, cette popularité d'Erdogan, expliquée donc par Samim Akgönül, qui dépasse très très largement les cercles islamistes, mais d'un autre côté, il y a toujours chez lui la tentation, dès qu'il le peut, d'avancer ses idées islamistes, au fond, et de les mettre en pratique.
Alors, d'abord, pour expliquer la popularité d'Erdogan, il faut aussi revenir sur l'idée des barrières à l'entrée sur le marché politique, qui est en fait les règles de présentation des candidats que Samim Akgönül évoquait tout à l'heure. Le paysage politique, il reste très verrouillé en Turquie. Donc aujourd'hui, les islamistes, ils sont entrés un peu par effraction en 2002, après une très grande et très importante crise économique. Mmh. Qui a laminé les partis politiques traditionnels, qui les a complètement décrédibilisés. Et depuis, ils campent, ils occupent le terrain. Et ce qui est très frappant de cette campagne électorale, c'est qu'aussi, c'est le premier ministre qui a fait campagne, il n'a pas démissionné. Il s'est fait introniser candidat un mois et demi avant l'élection. Donc très tardivement, il avait maintenu l'ambiguïté pendant très longtemps. Et puis, il a bénéficié du soutien absolument massif des médias pendant la campagne. Absolument. Donc, les autres candidats se retrouvaient vraiment complètement réduits à la portion congrue pour pouvoir faire connaître leurs idées. Mmh. Et par ailleurs, ces candidats font en fait une campagne traditionnelle dans le système institutionnel turc, c'est-à-dire qu'ils font campagne pour une présidence de la République qui est la présidence actuelle. Or, Erdogan se présente comme le candidat du changement, puisque lui fait campagne pour une Turquie qui veut présidentialiser, où il voudra exercer un pouvoir fort. Mmh. Ce qui fait que les deux autres candidats font aussi une campagne qui est un petit peu s'auto-voter d'une certaine façon.
Qui est décalée.
Oui, c'est ça. Enfin, ils sont beaucoup plus consensuels. Ils sont beaucoup moins sur des thèmes, disons... Enfin, bon, parce qu'on peut dire que Demirtas ne soit pas sur des thèmes de rupture, évidemment. Il fait une campagne qui est aussi sur des choses très marginales. Mais en tout cas, il ne se présente pas avec la même aura de leadership qu'Erdogan.
Et ils sont beaucoup moins audibles, Marc Semon. Ouais.
Je voudrais quand même revenir à cette question de la popularité d'Erdogan. Il faut quand même voir quelque chose de fascinant. L'AKP est au pouvoir depuis novembre 2002. Erdogan n'est devenu Premier ministre qu'un an après. Mais depuis cette date-là, toutes les élections nationales, locales, de référendums ont été gagnées par l'AKP et par Erdogan. Mmh. À chaque fois, en outre, l'AKP et Erdogan ont augmenté leur score. Bon, là, si les sondages ont raison, s'il fait dès le premier tour 53, 57, etc., c'est quand même extraordinaire. Donc il faut s'interroger sur les raisons de fond. Alors effectivement, comme le disait Samim Akgönül tout à l'heure, il y a cette autre Turquie, cette Turquie conservatrice, qui, avec Erdogan, a pris le pouvoir. Parce que Erdogan, cette Turquie conservatrice, religieuse, pieuse, ce n'est pas simplement les 50% de voix aujourd'hui qui se portent sur l'AKP ou plus de 50%. C'est quand même un pays qui est profondément conservateur. On peut dire que la Turquie, c'est deux tiers, un tiers. Hein, comme disait le grand pianiste Fazil Say, qui par ailleurs a eu des problèmes pour avoir...
Absolument.
Et a failli aller en prison pour blasphème, pour avoir ironisé à propos des muezzines. Il dit, le problème de la Turquie, c'est que c'est deux tiers Arabie Saoudite, un tiers Italie. Il exagère un peu, mais il y a quand même du vrai. C'est-à-dire, vous faites tous les sondages montrent, 75% des femmes portent quand même traditionnellement le foulard. Si vous demandez aux Turcs, est-ce qu'ils veulent avoir un voisin juif ou chrétien, 80% disent que non, et en plus, si c'est un athée, c'est 90%. Donc, c'est une société profondément conservatrice, une société qui a un rapport quand même très fort à l'autorité. On aime aussi l'autorité. Et donc, tout cela joue pour Erdogan, d'autant qu'il est le symbole de l'espérance. En 12 ans, le revenu par tête a quasiment triplé. Donc, économiquement, c'est quand même un extraordinaire succès. Et ce n'est pas que ça. Chaque Turc, aujourd'hui, est convaincu que ses enfants vivront mieux que lui, ce qui est énorme. Et en outre, malgré les dérives autoritaires qui sont évidentes et terribles, si on regarde les choses, on peut dire qu'aujourd'hui, la Turquie est incontestablement plus démocratique qu'elle ne l'était il y a 15 ans. Des tonnes de débats qui auparavant étaient tabous, aujourd'hui, sont licites. En revanche, il y a des nouveaux tabous, notamment quand on parle d'Erdogan et tout, et il est évident qu'aujourd'hui, la Turquie, en revanche, est beaucoup moins démocratique qu'elle ne l'était il y a 5 ans.
5 ans, voilà. Effectivement, le débat est possible, certes, Samim Agunul en Turquie, mais le Premier ministre, en l'occurrence, Erdogan, durant cette campagne, a refusé tout net de débattre avec ses deux opposants. Alors, comment interpréter cette attitude? C'est de l'arrogance, c'est du mépris, ou c'est véritablement la certitude, au fond, qu'il tient pour quantité négligeable ses adversaires politiques?
Mais Marc le disait très bien, aujourd'hui il y a plein de tabous qui sont discutés et qui sont débattus sur la place publique, mais nous avons un nouveau tabou sur lequel on ne peut absolument pas discuter, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas poser des questions, c'est Erdogan lui-même, c'est notre tabou de 2014. Effectivement, si on compare la Turquie avec la Turquie d'il y a 20 ans, évidemment qu'il s'est beaucoup plus démocratique et il est pour quelque chose, pas pour beaucoup, mais pour quelque chose le pouvoir d'Erdogan, mais peut-être qu'on aurait pu se dire que c'est la conjoncture internationale également qui fait que la Turquie est plus démocratique. Mais elle est beaucoup moins démocratique et c'est pour ça qu'il ne veut pas être confronté ni aux journalistes dignes de ce nom, Marc est là et il sait de quoi je parle, ni à ses adversaires, parce que un, il sait qu'il y aura des questions très embarrassantes, là il trie au volet 2-3 journalistes des médias qui sont très proches de lui et d'ailleurs qui ont été accaparés par le pouvoir depuis les 5 dernières années, et d'autre part les candidats adversaires qui peuvent avancer leurs idées. Donc il se dit, pourquoi me confronter à ces questions alors que j'ai la possibilité d'avoir sous la main mes propres médias qui ont été achetés et rachetés par les hommes d'affaires qui ont d'autres espoirs d'obtenir des marchés publics de l'État, qui ont été pensés pour les acheter. Et donc là, quand il parle, quand il fait n'importe quelle inauguration, quand il va faire pipi, il y aura l'ensemble des médias qui vont aller se mettre en direct pour montrer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 15 chaînes en direct qui est ce qui se passe. Donc il n'a absolument pas envie ni besoin d'être confronté à des vrais journalistes ni à ses adversaires.
Là, vous décrivez une Turquie un peu semblable à une république bananière, c'est-à-dire ces pays du tiers-monde, en tout cas dans ses relations avec les médias et en ce qui concerne la place qu'il laisse à ses adversaires. Juste une dernière question avant d'aborder la deuxième partie à Dorothée Schmidt. Est-ce que vous avez retenu, Dorothée, tout de même des idées nouvelles, des propositions nouvelles ou apaisantes, en tout cas, de la part d'Erdogan durant cette campagne parce qu'il semblait toujours à chaque fois dans la surenchère.
Oui, alors, il faut distinguer un peu le fond, effectivement, les idées, le programme, et puis la rhétorique. On sait, comme on l'a dit, que c'est une bête politique. Il est pas seulement très actif, il est très vindicatif en meeting. Donc, il est toujours à la limite de l'insulte. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de polémiques pendant cette campagne. Oui. Notamment à un moment où il a dit qu'on l'avait accusé d'être arménien et que c'était une insulte. Enfin, bon, on est reparti de la rhétorique de discrimination ethnique qui est très problématique. Mais maintenant, sur le fond du programme, il faut reconnaître qu'il a un programme qui apparaît d'autant plus solide qu'il est toujours organisé sur les mêmes fondements. C'est-à-dire que c'est quand même à la fois cette idée de l'ouverture, de l'approfondissement démocratique. Et Marc a reconnu que la Turquie est aujourd'hui plus démocratique tout en étant moins démocratique. Enfin, je rappelle quand même que Viktor Orban a récemment affirmé que les systèmes politiques qu'il admirait, c'était la Russie, la Chine et la Turquie. Donc voilà, ça c'est l'image de la Turquie aujourd'hui à l'étranger. Donc il y a l'ouverture démocratique, il y a aussi la prospérité économique. Et là, il bénéficie encore d'un très bon bilan. Il se trouve que là, conjoncturellement, il a des bons chiffres, alors qu'on s'inquiète quand même un petit peu pour la santé de l'économie turque à moyen terme, pour toutes sortes de raisons. Et puis, puis, il y a cette idée d'une diplomatie d'ouverture qui a fait connaître la Turquie sur la scène internationale.
Voilà, RFI, vous écoutez Géopolitique, on observe une pause. Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour la deuxième partie de cette émission consacrée donc à la première élection présidentielle turque au suffrage universel. Merci de rester avec nous.